France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Pierre-Marc Debiasi.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes chercheur, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Alors vous êtes critique littéraire, mais vous travaillez sur ce qu'on appelle la médiologie. On va y revenir. Et vous avez publié en septembre dernier un ouvrage qui s'intitule « Le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone ». On vous reçoit alors que justement, là, en début de semaine, on a eu les nouveaux chiffres de vente de smartphones qui restent absolument exponentiels avec et qui nous rappellent d'ailleurs que Samsung reste le premier sur le marché, mais qu'il est talonné par Apple et par Huawei, le chinois qui s'est vraiment imposé. On a aussi appris, par ailleurs, ça je ne sais pas du tout si vous le saviez, mais qu'il y a un constructeur chinois tout à fait inconnu, Royole, qui lance le premier smartphone pliable du marché, c'est-à-dire un smartphone qui fait la taille du Samsung Note et que vous pouvez replier comme un portefeuille. Donc là, vraiment, le but, c'est qu'il aille le plus près possible de vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vous avez eu envie d'écrire cet essai, c'est essai qui, à la fois, compulse des études, recueille des témoignages et tente d'analyser les conséquences de l'apparition de cet objet qu'est le smartphone. Et c'est bien de la médiologie. Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
En gros, pour faire simple, c'est une discipline qui a été lancée par Régis Debray il y a déjà une vingtaine d'années et qui s'interroge sur ce que la technique fait à la culture et réciproquement, quoi, en gros. Avec cette hypothèse que quelques objets sont dans le temps, dans l'histoire, concentrent en eux une sorte d'esprit de l'époque. Et je crois que pour notre époque, c'est-à-dire le début du 21e, c'est vraiment le smartphone qui a démontré en 10 ans un succès absolument inouï. Quand même 3 milliards à peu près d'utilisateurs, enfin entre 2,5 et 3, en 10 ans, ce qui est quand même pas mal, hein, 1,5 milliard de nouvelles ventes chaque année. Alors le smartphone, c'est rien du tout, c'est au fond un carrefour, c'est pas Internet, c'est pas l'informatique, mais c'est la mise à disposition de nomade de tout ça, dans votre main. Et c'est ce qui a
fait. Vous comparez d'ailleurs le smartphone au Silex, qui serait presque pour vous autant, même si le mot anglais est très laid, game changer que le Silex, et qui est un objet qui a permis à l'homme non seulement d'évoluer, mais en plus qui a probablement évolutionné la manière dont il utilise son cerveau.
Oui. Et le Silex a fabriqué notre espèce, hein, en réalité. Je le compare parce que, au fond, un Silex et un smartphone, ça a beaucoup de relations. D'après le roi Grouan, par exemple, hein, le rapport de la main au Silex est fondamental. Je pense que le rapport de la main au smartphone, on le voit bien dans les évolutions de dimension, est fondamental. Sauf que le Silex de nos ancêtres, il a permis au cerveau de doubler grâce aux protéines qu'on a pu gagner avec la chasse, quoi. Et notre Silex transhumaniste, là, smartphone, lui, je suis pas sûr qu'il nous fasse doubler le cerveau.
Parmi les études que vont compulser, les constats que vous tentez de livrer, vous essayez d'expliquer, de comprendre avec les études qui existent, et ça c'est une question qui m'intéresse, ce que ce smartphone fait ou ferait au cerveau. On a des études qui sont parfois contradictoires, avec des méthodologies tout à fait différentes. Peut-être une question préliminaire, vous avez cherché comment, et est-ce que vous avez l'impression, peut-être comme moi, qu'en termes d'études, on est quand même un petit peu en retard?
On est en retard et c'est un peu une des raisons de ce livre. C'est que je voulais faire un bilan de l'état des connaissances aujourd'hui et surtout, si vous voulez, de la situation à mi-guet, quoi, au milieu du guet, puisqu'au fond, le succès est considérable après 10 ans, mais on ne fait qu'entrer dans une nouvelle phase qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui nous attend? C'est très difficile à dire, mais ce qui est, au fond, la quasi-totalité, quand même, des enquêtes, des recherches, des évaluations donnent des résultats inquiétants en termes d'attention, de pulvérisation de l'attention et de désapprentissage. C'est quand même un outil qui sert à désapprendre énormément.
Alors ça, on va y revenir. Il
a effectivement des atouts extraordinaires, il nous donne de super pouvoirs, et son succès est là, évidemment. Des logiciels comme des applications comme Waze, du jour au lendemain, vous permettent de vous guider, de faire le taxi parfait n'importe où. Mais seulement, est-ce qu'on saura encore lire une carte dans 2 ans, quoi? Une carte routière? Pas sûr.
Alors, c'est ce que vous dites, c'est que concrètement, il y a plusieurs effets de ce smartphone sur ce cerveau, pour le coup, qu'on connaît un petit peu grâce à des études. C'est qu'effectivement, on délègue à cet appareil toute une série de capacités, notamment celle de la mémorisation, de la géolocalisation, avec le risque, dites-vous, de créer une dépendance. Il y a aussi une autre question, celle-là, on la connaît bien, c'est la question de l'attention, et c'est la question de la dépendance du cerveau à ces shoots de dopamine qu'on reçoit avec les notifications. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle quand on parle de ça?
On parle d'une structure addictive qui est produite par l'ancien cerveau, le premier, l'encéphale, qui effectivement, à ces petits laboratoires de drogue, et à un système de la récompense qui est activé par cette situation très particulière que nous donne le smartphone, qui est l'attente, la surprise, le désir de nouveau, les possibles, quoi. C'est un outil entièrement ouvert sur la totalité de notre champ, donc sur la totalité des possibles qui peuvent nous advenir. Et c'est pour ça qu'on lâche pas son smartphone, qu'on le prend même si on va au bout du jardin, parce que il peut se passer justement un truc, là, entre les moments où vous l'avez laissé et puis le moment où vous le retrouvez. Et alors, cette situation-là, elle a quand même tout de l'âme malheureuse de Hegel, vous voyez, de ce côté adolescent, où on s'ouvre à tous les possibles, et en même temps où on est presque incapable de choisir, quoi. Il y a quelque chose dans cet outil.
C'est une métaphore que vous utilisez dans votre livre.
Il nous transforme tous en papillons, quoi. On butine, on va. Comme Hegel parlait de l'adolescent qui, à force de vouloir conserver sa liberté d'être tout et tout à la fois et partout, ne se pose nulle part, jamais.
Mais ça, il y a eu des études assez intéressantes où vous montrez que l'attention et la qualité de concentration est proportionnellement catastrophique. Plus votre portable est prêt,
oui,
plus vous êtes,
moins, nous,
vous êtes peu concentré, plus il est loin et inaccessible, oui, meilleure est la qualité, oui, de votre concentration.
20% d'efficacité au travail en plus si le smartphone est inaccessible.
Donc, si on n'envisage même pas qu'il puisse interagir avec nous, il y a cette question donc de déléguer les savoirs, mais il va y avoir aussi des gens qui vont considérer que déléguer ces questions de mémoire, de stockage, ces questions de géolocalisation permet de se concentrer sur une intelligence et une concentration plus créative. En gros, on délègue des choses qui aujourd'hui nous prenaient beaucoup de temps et d'énergie, se rappeler des numéros de téléphone, se rappeler comment calculer, lire une carte, pour dégager un temps qualitatif.
Oui, ouais,
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est la version idéale, quoi. C'est les gens qui ont les moyens d'avoir du créatif dans leur vie aussi, hein, ce qui est un peu un problème social et un problème à penser en termes de hiérarchie, ce qui est pas donné à tout le monde. Et la règle générale, c'est que le temps que vous avez gagné en vous déchargeant de ces tâches, et ben vous le consacrez à du jeu sur votre smartphone. C'est-à-dire que ce que vous avez gagné, vous le réinvestissez directement dans une activité absolument non productive et qu'on pourrait, à certains égards, considérer comme crétine.
Comme crétine, mais vous ouvrez votre livre. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur une citation de Pascal. Vous dites aussi que le smartphone, c'est l'instrument du divertissement au sens pascalien du terme, et que c'est en ça, peut-être d'ailleurs, qu'il connaît le succès qu'il connaît. Donc, on l'a entendu, vous êtes quand même plutôt pessimiste. Vous envisagez même la possibilité, entre l'arrivée de l'intelligence artificielle et la miniaturisation du portable, la possibilité d'un portable qui aurait migré à l'intérieur même de notre corps.
Ouais. C'est
hypothèse qui serait envisagée comme positive par une partie des 15-25 ans.
Oui. Ah oui, très nettement. Oui, il considère que c'est même logique, c'est normal. C'est sûrement comme ça que ça se passera, parce que c'est une bonne façon de ne pas risquer de perdre son smartphone, hein, ça c'est sûr. Et puis, il est tellement proche, quoi, vous savez, quand vous déverrouillez 200 fois par jour et que vous passez, quand vous le pouvez, pendant le week-end, entre 8 et 10 heures par jour, à votre écran, il y a quelque chose comme une relation qui est plus que prothétique. C'est plus une prothèse, c'est véritablement quelque chose qui vous appartient, qui est biologique, qui est dans le corps. Donc, ça pourrait migrer sous la peau. On déclarera peut-être un écran sur l'avant-bras et ça sera formidable comme ça, quoi.
Bon, on entend une forme d'ironie et de pessimisme. Je termine avec une dernière question. Vous dites, le smartphone est un pharmacone. C'est à la fois le poison et son remède. Qu'est-ce que vous préconisez, justement, pour que ne tombe pas dans les pièges, et notamment des pièges qui pourraient, et ça c'est votre avis et ceux de certains chercheurs, avoir des conséquences concrètes sur le fonctionnement même de notre cerveau, on l'a dit. Qu'est-ce que vous préconisez?
Je préconise que l'école s'en empare.
On parle d'un poison et d'un remède.
Que l'école s'en empare et que le smartphone puisse donner lieu à des applications qui soient, même s'il faut interdire le smartphone, on est d'accord pendant les cours, il doit aussi faire l'objet d'une éducation. Vous voyez, je crois que c'est la chose qui manque dans cette affaire. Et le smartphone peut être l'espace par lequel des bibliothèques entières deviennent accessibles à des enfants, par lesquels on les voit lire le journal en ayant les yeux qui piquent le soir en disant « Oh là là !» Bon, mais on adapte la chose au format smartphone, on le fait bien, et on fait de cet outil, en enseignant en même temps un peu de détox par rapport à son usage addictif, tout ce qu'il faut pour en faire un outil de culture, de savoir et de développement.
Mais donc du coup, il y a quand même une vraie nécessité d'apprendre la détox. C'est ça que vous dites dans
votre
livre.
Ah oui, c'est sûr. Et puis il y a aussi un autre souci, c'est celui quand même de la surveillance capitaliste qui est derrière, hein, de ce régime de surveillance, de propagande,
de fake news. On l'a vu d'ailleurs avec l'élection de Trump et l'élection de Jair Bolsonaro. On en parlait dans ce
Sport. Oui, donc là, le subliminal, il faut quand même le surveiller de très près. Hein.
Merci beaucoup Pierre-Marc de Biasi que nous avons reçu. Vous étiez là ce soir pour votre livre Le Troisième Cerveau. Je rappelle que selon vous, il y a notre cerveau, il y a le deuxième cerveau que l'on connaît qui est l'intestin et le smartphone pourrait devenir notre troisième cerveau. Merci d'avoir été avec nous.